Grain de sel, l'émission de la rédaction. Grain de sel.
Bonjour, c'est Frédéric. Je suis aujourd'hui dans les studios de RVM en compagnie d'une association d'aïkido. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser vous présenter et savoir pourquoi on est là aujourd'hui pour parler d'aïkido et pour parler notamment de votre section qui se trouve à Senlis. On dit la Setaï, c'est ça?
C'est ça, oui.
Jean-François de Poisson qu'on avait reçu. Donc du dojo de Senlis, 6e dan. Mmh. Donc David Stesicki, dojo de Venette, 4e dan.
Oui.
Et donc Germano Minuti, dojo de Pont-Sainte-Maxence, 4e dan aussi.
Exact.
Donc ça rigole pas, on a du lourd là. Hein,
hein. Oui, on peut dire ça.
Voilà. Alors on donne peut-être la parole à notre plus gradé, c'est ça? Alors à Jean-François.
Ouais,
pour nous faire une petite présentation de qui est Jean-François, et puis comment vous êtes venu à l'aïkido, et ainsi de suite, on fait comme ça.
D'accord, mais c'est très simple. Donc, l'aïkido, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a 40 ans maintenant. Et j'étais pas plus enthousiaste que ça au début, parce que je connaissais absolument pas. Et puis, avec les années de pratique, quelque chose s'est créé et rapidement, j'ai été happé par cette manière de pratiquer les arts martiaux. Ensuite, j'ai intégré un groupe d'anciens qui m'ont beaucoup sollicité, qui m'ont permis de gravir les échelons assez rapidement, au moins au départ. Et puis un jour, avec un ami, M. Éric Derobe, on a décidé d'ouvrir une section à Senlis. Et donc j'ai passé mon diplôme d'instructeur fédéral et puis le tronc commun de professeur d'État. Et ensuite, on a réussi à avoir une petite salle, un petit dojo de 70 mètres carrés à Senlis, et on a commencé comme ça avec 3 ou 4 élèves. Et puis les années ont passé, on a changé 2 fois de salle. Et puis quand on regarde derrière nous, ben effectivement, on a annoncé plus de 800. J'ai dû faire la 827e licence cette année. Et puis on formait à peu près 45 ceintures noires depuis toutes ces années. Voilà, et puis dans les années 90, j'ai eu la chance de rencontrer mon professeur actuel, Monsieur Gérard Blaise, et là, ça a été un peu la révélation. J'ai décidé de suivre exclusivement son enseignement. Et grâce à lui, j'ai rencontré un des plus grands experts japonais, donc Maître Kizuchi, et pendant 7 années, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de suivre ses enseignements et ses stages lorsqu'il venait en France, mais aussi je suis allé au Japon étudier dans son dojo, et donc me rendre compte de par mon propre expérience, et puis voir ce qui se passait au niveau du travail au Japon. Et là, vraiment, ça a été quelque chose d'incroyable. Et j'ai vraiment décidé de me consacrer complètement à cette étude. Et voilà, en 2020, l'Aikikai de Tokyo m'a décerné le 6e dan. Et c'est un bon chemin, un beau parcours pour ça.
Mais comment on vient à l'aïkido, Jean-François? C'est parce que tu avais envie de faire un art martial bien précis ou ça t'est décidé comment?
Alors, c'est une anecdote assez drôle parce que je suis un peu âgé, moi, maintenant. Donc, je fais partie de la génération de Bruce Lee.
Oui.
Donc, voilà, quoi. On était jeunes et puis on avait vu... Ce pratiquant d'arts martiaux et tout, et donc automatiquement on s'est dirigé vers le kung-fu, tout ça et tout, et puis j'avais un ami qui pratiquait cette discipline qui m'a dit « Oh, c'est pas mal et tout, viens !» Et puis bon, je n'ai pas tellement été emballé par cette pratique. Et puis un jour, il m'a emmené dans un dojo parisien qui est très connu, qui est le dojo de la Montagne Sainte-Geneviève, où enseignait maître Henri Play, qui était un des plus grands experts français de karaté. Et dedans, il y avait une section d'aïkido. D'aïkibudo, exactement. Même pas d'aïkido, d'aïkibudo, c'est-à-dire une forme un peu ancienne de la pratique de l'aïkido. Donc j'ai commencé comme ça, et puis bon, c'était intéressant. Et puis quelque chose s'est mis en route, une sorte de lien avec les anciens qui étaient déjà présents. Et puis petit à petit, j'ai été happé, tiré par ces gens-là, et ils m'ont donné goût à l'entraînement et goût à cette pratique. Et puis après, c'est devenu comme un peu le centre d'une vie et de la manière d'envisager mon existence à travers un entraînement quasi quotidien et de donner un élan supplémentaire à cette étude. Donc voilà, quoi, c'est assez simple, comme il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas ni de révélation ni quoi que ce soit. Mais c'est un travail qui est au début, on fait ça un peu comme un loisir, et puis petit à petit, on s'investit, et puis ça devient un peu le centre de notre vie, et on n'arrête pas de pratiquer, même quand on commence à avoir quelques amis.
Germano, présentation.
Oui, très bien. Donc, j'ai commencé l'aïkido il y a 25 ans. Donc, j'avais 35 ans. Pas de passé dans les arts martiaux. Une condition physique acceptable, etc. Donc, je voulais commencer un art martial, mais je voulais pas rentrer dans quelque chose de violent. Le karaté, etc., le judo, ça ne me disait pas grand-chose. Et donc, en discutant une fois avec un collègue qui pratiquait l'aïkido à Senlis, qui ne pratique plus maintenant, mais qui pratiquait à l'époque, et on a discuté un petit peu de ce qui l'intéressait au travail de l'aïkido, et il m'a parlé d'un groupe, d'une ambiance, d'un travail, où c'était pas... où il y avait une entente entre les participants. Il m'a brossé un portrait vraiment flatteur de cette pratique-là, mais quelque chose de général. Et il m'a dit que ça pouvait m'intéresser. Effectivement, au bout de quelques années, je me suis lancé dans la pratique. Et mon premier cours, c'était un samedi après-midi, et il durait 3 heures. 3 heures de cours.
Ah oui, 3 heures quand même.
3 heures de cours, oui. Et à la fin du cours, je savais plus où j'habitais, entre guillemets. J'ai vraiment des sensations un peu contradictoires. Et à la fin du cours, mon professeur, comme il le fait pour chaque participant, chaque débutant, m'a demandé si ça allait, et ma seule réponse a été « ça va ». Parce que j'étais pas dans la capacité d'exprimer vraiment ce que je ressentais, parce que je ne savais pas moi-même. Et finalement, la semaine d'après, les cours reprenaient le mardi, et je me suis présenté le mardi, et depuis, je me suis jamais arrêté, quoi. Pratiquement. Pratiquement, pendant 25 ans. Donc ça commençait le samedi après-midi, le mardi, j'y allais 2 fois dans la semaine, et il y avait, et puis au fur et à mesure des mois qui passaient, des sensations qu'on développait, du groupe qu'on aimait fréquenter, de l'enseignement du professeur, des gens qui ont travaillé, et bien de fil en aiguille, on passe de 2 entraînements par semaine à 3 entraînements par semaine. Et il y avait 3 entraînements à l'époque à Senlis, il y en a toujours 3. Mais si vous voulez, cette envie de continuer,
c'est besoin. C'est une addiction, alors c'est ça un peu ? C'est un besoin ?
Oui, c'est un besoin. Alors, au début, c'est vraiment un besoin, physique. C'est-à-dire qu'on ressentait des bienfaits. À l'époque, j'avais mal au dos, et avec cette pratique-là, je me disais, ah, tiens, c'est intéressant, parce que je suis détendu, s'il n'y a pas de violence, il n'y a rien, on n'a pas mal. On fait des chutes que je ne savais même pas ce que c'était de faire une chute sur un tatami, mais j'ai appris comme ça. Voilà, les sensations, après chaque cours, étaient toujours aussi bonnes, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. Au fur et à mesure des mois et des années, on découvre des sensations, on va chercher, on fait des techniques, on essaie de les comprendre, on les améliore, hein, toujours sous l'œil bienveillant de notre professeur, hein, parce que c'était oui. ça, hein, parce qu'on ne progresse pas tout seul, hein, on progresse au travers d'un groupe. Et donc les années passent, et puis après, votre professeur vous présente un jour pour le passage du premier Dan. Ouais. Et puis voilà. Et après, ce que j'ai retenu, moi, c'est cette remarque, c'est-à-dire quand on passe un grade, quand on devient premier Dan, c'est-à-dire qu'on on est impliqué dans l'étude. On peut toujours s'arrêter, mais on ne peut pas revenir en arrière, on peut aller que de l'avant. Et ça, on le découvre petit à petit. C'est-à-dire qu'on découvre sa propre responsabilité au sein de son groupe. Et ce que ça veut dire, ce que ça implique, d'être un peu un exemple, entre guillemets, pour dire, tirer les gens vers le haut. Et comme nous, on progresse, on fait progresser notre professeur aussi. Donc c'est tout un enchaînement qui se met en place et qui, au bout de 25 ans, perdure encore. Voilà. Ah oui. Avec le nombre de camarades qu'on a vu passer.
On a sauté quand même 45 ceintures noires.
Donc,
le club a été fondé en 1987, c'est ça, Jean-François ?
Oui, c'est ça, oui. Oui. Les statuts du club ont été déposés en 87. Et le premier cours a commencé le 13 février 88.
On va passer la parole à David, alors.
Ok.
David, c'est grâce à David qu'on est là ce soir, quand
même,
pour préciser. Hein, voilà.
Merci.
Donc David, présentation.
Merci de nous offrir cet espace pour pouvoir parler de l'aïkido. Et effectivement, donc moi j'ai démarré l'aïkido il y a 30 ans. Donc pareil, c'est un cheminement assez basique. On est dans un âge où on est en pleine recherche de soi, de spiritualité, si on peut dire, de choses de la vie. Et... on fouille à droite, à gauche, quelque chose qui va pouvoir nous apporter des réponses. Et j'ai fait un peu la même démarche que Germano et j'ai rencontré donc Jean-François il y a 30 ans maintenant. Donc j'ai poussé la porte de son dojo et je lui ai posé la question, est-ce que je peux venir m'entraîner ou est-ce qu'il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Et puis l'aventure a commencé comme ça, on a travaillé ensemble des heures et des heures sur les tatamis pour en arriver aujourd'hui à continuer à travailler encore 3 fois par semaine. On se voit avec des séances de 3 heures. Donc tu vois, ça fait quand même...
Oui, c'est sacré séance, hein, quand même, 3 heures. Hein.
Voilà, et les petits sont devenus grands parce que Germano ne l'a pas dit dans sa présentation, mais nous, on continue à être élèves de Jean-François. Mais aujourd'hui, on a eu cette chance, à notre tour, de pouvoir ouvrir des sections... Par exemple, Germano est de Pont-Sainte-Maxence, il est instructeur là-bas, et moi je suis à Venette. Donc on fait nos cours en tant qu'élève, mais on a cette chance, par le biais d'une formation d'instructeur fédéral, de pouvoir aussi transmettre notre passion à d'autres.
Oui, donc vous êtes tous les trois instructeurs fédéraux, voilà. Jean-François, il est même directeur technique, hein, c'est ça, hein, de la CETAI. Et puis, tu es diplômé d'État aussi. Alors, ça consiste à quoi, ça, David ?
Moi, c'est en parallèle, en fait. Moi, je suis éducateur sportif de métier. J'ai fait une reconversion professionnelle où je suis devenu éducateur sportif et avec une spécialisation en sport adapté. Donc, je m'occupe de personnes autistes adultes et je leur crée des programmes d'entraînement. C'est en annexe. Ce que je veux dire, c'est... Mais la partie, on va dire la partie aïkido, on n'est pas dans du professionnel, on est dans du bénévolat. Donc forcément, le diplôme que j'ai passé d'État m'a appuyé, m'a renforcé dans mes connaissances, la relation avec les gens qu'on va encadrer, quoi.
Si on pouvait décrire l'aïkido pour les auditeurs, en quoi consiste cet art martial et comment il est né ? Il n'est pas très vieux, en fin de compte, cet art martial.
Ah non, il n'est pas très vieux, c'est l'un des derniers arts martiaux créés au Japon avec l'esprit du Do. Hein, il y a eu le judo avec Jigoro Kano, il y a eu le karaté-do, il y a le kendo, le kyodo, et puis il y a eu l'aïkido. Alors la date exacte, on ne sait pas très... c'est pas figé à un moment. On sait que le fondateur de l'aïkido a déposé le mot d'aïkido en 1942, donc en pleine guerre mondiale, auprès des institutions japonaises pour créer ça. Mais avant, ça a eu plein d'autres noms. Ça a eu Aikibudo, ça s'est appelé Ushibariyu, ça s'est appelé plein de choses comme ça. Enfin, c'était basé sur le jujitsu ancien japonais. Et puis, lui, on a fait quelque chose. Sa force à ce maître, c'est qu'il a compris en pleine Seconde Guerre mondiale, que se battre, c'est quelque chose qui ne sert pas à grand-chose et qui va tout le temps dans des mauvaises directions. Ça veut dire que même si on pense avoir gagné, on a peut-être gagné en créant du malheur et des choses assez terrifiantes. Et lui, ça l'a beaucoup touché. Il a senti un peu avant tout le monde que l'Empire japonais ne tiendrait pas. Et d'ailleurs, il a quitté Tokyo pour aller s'installer à 150 km dans une petite ville qui s'appelle Iwama, parce que Tokyo était bombardé assez régulièrement par les forces américaines. Et donc, il savait que ça ne fonctionnerait pas. Et il a eu raison, parce que quand même, ça s'est fini par deux bombes atomiques et la reddition du Japon. Et lui a dit, à la sortie de cette période, a dit... L'aïkido, c'est pas fait pour la destruction. C'est fait pour que les gens créent un monde où toutes les personnes auraient leur place, comme une sorte de grande famille. Bon, c'est une vision un peu utopique, hein, parce qu'on en est loin malheureusement, mais quelque part, c'était une démarche intéressante. C'est-à-dire que... on évoquait en aparté tout à l'heure, avant de commencer l'émission, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de choses comme ça dans l'aïkido. Mais c'est voulu, c'est à cause de ça, parce que quelque part, la compétition, c'est vouloir vaincre. C'est être meilleur que. C'est donner à celui qui a perdu, peut-être un sentiment de frustration, quelque chose comme ça. Donc l'aïkido qui a été fait par le fondateur par son fondateur, c'est vraiment quelque chose de un partenariat entre deux personnes. Il y en a un qui est là pour créer une situation et un autre qui est là pour recevoir cette énergie qui est faite par celui qui crée. Et qu'est-ce qu'il en fait ? Est-ce qu'il il la reçoit pour la retourner avec violence contre celui qui l'agresse ou qui montre ce qui ne va pas ? Ou est-ce qu'il le garde en lui et le dirige vers quelque chose d'autre ? Donc c'est toute une démarche comme ça qui a été pensée par le fondateur et il a véritablement changé les règles des arts martiaux anciens japonais, qui étaient quand même des arts de combat qui dataient donc de plusieurs centaines d'années, hein, à l'époque des samouraïs, où les gens, et c'est un pays qui s'est battu quand même presque pendant 1000 ans, avant que le shogunat arrête toutes ces batailles entre grands seigneurs. Donc Il a changé, il a dit l'aïkido, c'est pas la voie de la destruction, mais c'est la voie de la construction. Donc son art martial est rempli de ce sentiment-là. Et donc, lorsqu'on pratique, avec sincérité, avec beaucoup d'énergie, mais jamais dans le but de détruire l'autre, simplement dans le but de montrer que son action ou son désir d'action est quelque chose de pas bon. Et on canalise ça pour l'emmener à un endroit où il n'y a plus de danger, ni pour celui qui veut agresser, ni pour celui qui est agressé.
Oui, donc c'est bien précisé quand même, voilà, il n'y a aucune compétition dans votre art martial. Hein.
C'est ça.
Ça, c'est vraiment la grosse différence avec, avec le karaté, avec d'autres sports, le taekwondo et tout ça. Hein, voilà.
La seule compétition qu'il va y avoir, c'est celle qu'il y a en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un combat entre soi. Est-ce que je choisis d'être contre la vie, contre l'autre, contre où est-ce que je choisis de travailler sur moi. Moi, j'aime entendre des conversations comme celle-ci, parce que l'aïkido, on peut l'aborder comme on veut. Effectivement, on est sur un tatami, et on va travailler avec de l'expression corporelle à travers un cadre bien précis, où il va y avoir des séances dedans, où on va être, à un moment donné, on va être attaquant, et à un moment donné, on va être celui qui va recevoir une attaque. Et à travers ça, comment mon mental réagit? Comment moi, je me positionne? Et on fait tout à fait cette expérience que le fondateur a décrit à un moment donné. On a le choix, effectivement. Je peux choisir de répondre à une attaque, et donc là, je vais être dans du combat. Ou alors, je peux choisir justement de ne pas entrer dans ce conflit. Et c'est là que c'est la complexité de l'aïkido. C'est, ça demande un travail vraiment profond sur soi, de ne pas réagir. Moi, souvent, sur le tatami, Jean-François me guide avec cet état d'esprit, à travers des mouvements, c'est ne pas créer de tension inutile, ne pas répondre, ne pas être dans l'opposition. Il y a plein de principes comme ça qui vont ressortir, que tu dois étudier dans ton corps, dans ton esprit, pour justement être dans le cadre de l'aïkido. Ce qui fait, c'est que quand tu arrives dans ton quotidien, tu n'es plus sur un tatami. Moi, par exemple, dans le monde du travail, il y a des mécanismes mentaux qui se mettent en place sur le tatami qui vont ressortir dans ta vie de tous les jours. Ce que je veux dire, dans une conversation, tu ne vas plus être dans l'opposition, tu vas plutôt être dans l'écoute, tu vas changer. En fait, il y a une phrase qu'on a déjà dit, mais que j'aime bien répéter, c'est Ikitsushi Michio qui nous l'a cité lors d'un stage. Il dit, quand moi je pratique l'aïkido, il se passe quelque chose à l'intérieur. Donc l'aïkido fait que lui, il change. Et dit, si moi je change, les gens autour de moi vont commencer à changer par la pratique. Et si les gens autour de nous changent, peut-être que après, encore plus de gens autour de nous vont changer. Le monde peut changer. Tu vois, c'est là que ça devient intéressant, c'est que par une pratique physique sur un tatami, en fait, il y a une espèce de compréhension du corps et de l'esprit qui font qu'à un moment donné, tu peux changer. Et du coup, ça change complètement ta ligne de vie. Oui. Moi, ça m'a apporté des réponses, des solutions dans ma vie de tous les jours.
Et comment vous transmettez maintenant, alors, parce que le public que vous recevez, ça va de quel âge à quel âge? On peut commencer l'aïkido à quel âge?
Moi, je dirais que avant une dizaine d'années, c'est très compliqué.
Oui, parce qu'on n'a peut-être pas l'état d'esprit nécessaire, c'est ça?
Oui, c'est ça. La compréhension des enfants et... De ce qu'on présente et n'est pas facile, d'accord. Il y a des mouvements un peu compliqués, il y a au jour d'aujourd'hui, les enfants sont plus trop à l'écoute, c'est difficile, d'accord. Donc et les enfants ont besoin d'être dans un groupe pour avoir envie de progresser, et nous en aïkido, les enfants, il n'y en a pas énormément. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. Ce qui vient naturellement pour les enfants et pour les parents, c'est une pratique de judo. Donc en fait, ils sont déjà dirigés en grande partie sur le judo. Donc la présence des enfants est vraiment appréciée quand ils sont là, quand ils s'investissent, mais c'est pas souvent et c'est difficile pour eux. On dirait après il y a plus la période d'adolescence où le mental il peut se mettre en place et comprendre certaines choses, comprendre les disciplines qu'il y a apportées, etc. Donc il y a une conscience un petit peu de ce qui est demandé pour leur âge, qui est plus facile pour un adolescent que pour un enfant, de mon point de vue. Et après c'est tout âge, tout âge, toute condition physique. Nous les cours sont mixtes. Je sais qu'il existe des cours où les femmes ne sont qu'entre elles. Ça existe aussi un peu partout. Nous c'est des cours mixtes, anciens, jeunes. Notre travail, la manière dont on aborde l'étude de l'aïkido fait que on n'est pas dans l'expression physique, on ne cherche pas une démonstration musculaire de notre pratique. On est plus dans une recherche, on est plus dans un travail, j'allais dire individuel pratiquement, Il y a un travail collectif qui est fait, hein, on montre des techniques que tout le monde va essayer de reprendre. Et après, par exemple, le rôle des professeurs, c'est d'être un petit peu sur le travail individuel, essayer de montrer, d'expliquer, etc. Voilà, c'est une manière que j'aime bien aborder, si vous voulez. Hein, quand on parle de manière globale sur les participants qui viennent et qu'est-ce qui pourrait les motiver, les intéresser, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que on n'est pas à l'époque du fondateur, ses élèves étaient des gens qui étaient déjà comme c'était quelque chose de très confidentiel. Donc on envoyait d'autres écoles d'arts martiaux envoyaient leurs meilleurs élèves pour étudier avec le fondateur de l'aïkido. Donc c'était des gens qui avaient un niveau élevé de la connaissance des arts martiaux, et chose qu'on ne retrouve plus maintenant. Si vous voulez, le développement de l'aïkido, le développement mondial de l'aïkido fait qu'on touche d'autres populations et on n'est plus restreint sur des créneaux de pratiquants pointus, si vous voulez.
On va peut-être dire quelques mots sur Gérard Blaise. Vous pouvez nous le présenter parce que c'est un homme important pour l'aïkido en France, hein, on peut dire ça. Même dans le monde, parce que je vois qu'il intervient un peu partout. Il fait des stages un peu partout, cet homme. Qui peut nous présenter Gérard Blaise? David ou Jean-François?
Non, le mieux placé, c'est ce que j'allais dire, justement, parce que je voulais prendre la parole. Le mieux placé, c'est celui qui s'entraîne avec lui chaque semaine, c'est Jean-François.
Et si j'ai bien compris, il l'a rencontré ce matin encore.
Ils étaient ce matin.
J'étais à l'entraînement avec lui ce matin, comme chaque semaine. Mon professeur, maître Gérard Blaise, est quelqu'un qui a commencé l'aïkido il y a très longtemps, dans les années 63, si je ne me trompe pas, et qui a été rapidement, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de pratiquants d'aïkido. C'était souvent, comme l'a dit très justement Germano, même en France, c'était déjà des gens qui avaient soit fait un peu de judo, soit fait un peu de karaté, et donc c'était un art nouveau. Et Gérard Blaise, quand il a vu l'aïkido, et il a dit « Ah, ça doit être intéressant, j'ai envie d'essayer. » Et puis c'est parti comme ça. Et puis une fois qu'il a été promu, je crois, troisième dame, il s'est posé la question « Ah, mais moi je voudrais continuer à pratiquer et pas spécialement à faire que d'enseigner. » Parce qu'à cette époque-là, on enseignait assez rapidement, du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de professeurs. Donc, il a décidé d'aller au Japon. Il est déjà parti à la maison mère, c'est-à-dire à Tokyo, Rombo Dojo, où il a pratiqué avec les grands experts de l'époque. Et puis ensuite, il a rencontré donc son professeur, qui est donc maître Ikizuchi, et là il a dit « je vais m'entraîner avec cette personne parce qu'il détient quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs ». Et donc il est resté 5 ans et demi au Japon, il pratiquait donc très régulièrement, maître Ikizuchi lui donnait des cours particuliers. En 1995, il a été le premier non-japonais à recevoir le grade de 7e dan. Donc c'est un fait assez exceptionnel, parce que les Japonais sont des gens qui font très attention. Lorsqu'ils commencent à donner des grades de très très haut niveau, ils font très attention à qui ils les donnent et quel est le parcours de ces gens. Par exemple, pour citer un autre grand expert qui est très connu aussi en France, qui s'appelle Maître Christian Tissier, est l'un des premiers à recevoir le grade de 8e dame.
Oui.
Donc c'est très 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 particulier. Et donc avec ça, il est revenu en France et il a créé un groupe pour permettre à Ikizuchi Sensei de venir en France et d'enseigner. Et donc un groupe s'est monté autour de lui et pendant 7 ans, enfin pour ma part, mais ça avait commencé un petit peu avant, pendant 7 ans, tous les ans il venait et puis des Français allaient au Japon étudier dans son dojo et on avait ces échanges-là assez régulièrement. Et puis malheureusement, Maître Tsuji Sensei nous a quittés. Il va y avoir 20 ans l'année prochaine. Et donc Maître Gérard Blaise a continué son enseignement, à maintenir cette direction qu'il avait reçue de son professeur. Mais en même temps, il faut aussi que quelque chose de lui sorte. Et petit à petit, son groupe a évolué dans une pratique de recherche. C'est-à-dire qu'il y a tout un panel de pratiquants, dont Germano, dont David, qui vont aussi, parce qu'ils ne l'ont pas dit, parce qu'ils sont trop humbles, mais il faut savoir qu'ils vont aussi régulièrement au stage organisé par notre professeur, donc Maître Gérard Blaise, pour recevoir son enseignement. Il n'y a pas que moi qui vais, il y a eux aussi. Et avec ça, il y a tout un groupe de recherche, on va dire ça. Et ce groupe de recherche essaye de maintenir l'étude qu'a donné Ikizuchi Sensei avec des choses très, très, très particulières à respecter. Et en même temps, Maître Gérard Blaise dit qu'il n'y a eu qu'un seul grand aikidoka, c'est le fondateur. Et on se doit quelque part de continuer à étudier ce qu'a voulu nous donner donc cet homme un peu d'exception. Hein, parce qu'au Japon, il y a des maîtres comme ça qui sortent un peu du lot. Parce que des pratiquants d'aïkido, enfin d'arts martiaux en général, il y en a beaucoup. Mais de temps en temps, il y a des grands maîtres et qui sortent du lot. Et il faut garder cette ligne de travail. Et notre groupe, en tout cas, essaye d'étudier, de comprendre toute la démarche qu'a mis en place donc, le fondateur par la pratique. Pratiquer, et je vais dire un mot, pratiquer et vous comprendrez. C'est-à-dire que c'est pas une compréhension intellectuelle, mais c'est ça qui est extraordinaire dans l'aïkido, c'est par le corps qu'on apprend et pas par le mental. Non, même si on pense avoir compris une technique, et je pense qu'ils ne vont pas me contredire, ah oui, d'accord, je vois ce qu'il faut faire, tac, tac, mettre le pied comme ça, la main comme ça, ok. Et puis d'un seul coup, on se retrouve en face de quelqu'un qui vous attrape, qui vous saisit d'une manière assez solide, et là on se rend compte que le corps ne bouge pas, ou pas bien. Tiens, pourquoi? Donc, tout ce travail, c'est comment je fais, comment j'apprends avec mon corps pour que à un moment, le cerveau ne soit plus le commandant de bord, mais soit seulement un auxiliaire qui permet d'emmagasiner des connaissances. Et quand on a la chance que de temps en temps, le corps et le mental s'associent, alors quelque chose de génial sort dans l'aïkido. C'est ça, pour moi, le Saint Graal.
Alors, vous allez régulièrement tous les trois au Japon, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Vous faites des voyages réguliers au Japon. Hein.
Il y a des voyages prévus là qui arrivent au mois d'avril, donc toujours à peu près la saison des cerisiers en fleurs. Et en fait, c'est assez simple parce qu'en fait, là-bas, ils continuent à fêter la disparition du fondateur. Donc, il y a un grand événement et les gens partout du monde entier vont se réunir dans une région du Japon pour honorer justement. Honorer, oui. Voilà, c'est ça.
Et pour avoir vos dan, c'est pareil, il faut aller au Japon pour les obtenir ou quelqu'un peut vous les... Comment ça se décerne une dan ? Comment ça se passe ?
Le groupe Gérard Blaise, donc Gérard Blaise, quelqu'un qui avait une relation privilégiée donc, d'élève avec son maître Kitsushi, a cette autorisation justement d'évaluer ses élèves et de leur octroyer au bout d'un certain temps de travail un grade supérieur. Mais pour obtenir le grade, vous êtes obligé d'en faire la demande donc à la maison mère, l'Aikika de Tokyo.
D'accord. Et donc Gérard Blaise, donc c'est l'association internationale d'aïkido traditionnel du Japon, hein, c'est ça. Il a créé ça. Oui. Et donc Sanli s'en fait partie, hein, c'est ça. Hein.
C'est ça.
Vous faites partie du groupe Gérard Blaise.
On est adhérent. On a notre petit logo, comme quoi on est pleinement dans cette lignée là et. Je le revendique très fortement parce que c'est important. C'est pas le courant majoritaire hein, dans l'aïkido. Hein. Il y a d'autres grands professeurs et d'autres grandes filières. Mais on essaye de maintenir ce travail-là parce que quelque part, Ikizuchi Sensei a été le seul, enfin l'un des seuls, pas vraiment dire vraiment le seul, qu'il a reçu le grade de 10e dan directement du fondateur de l'aïkido. Alors, je pense que quand un maître d'exception, comme le fondateur, arrête un cours et interpelle son élève en lui disant « Missio-san, aujourd'hui je te décerne le 10e dan », accroche-toi, je crois que c'est ça les paroles officielles, on ne peut qu'être admiratif. Donc ce grand professeur, qui est lui resté très humble, parce qu'il avait promis au fondateur de l'aïkido d'être toujours derrière lui et d'aider le développement de l'aïkido, a respecté ce qu'il a dit. Alors, il a été un peu partout, hein, lui aussi. Hein, il a fait toute une partie aux États-Unis. Il a beaucoup d'élèves aux États-Unis. Toute une lignée de ses élèves aux États-Unis. Il est venu après, ensuite, grâce à Gérard Blaise, en Europe, en Finlande, en Espagne, en France. Et puis les élèves de Gérard Blaise, qui étaient eux aussi de l'Europe entière, sont venus. Il faut savoir que à l'époque, on était quelquefois près de 400 personnes sur le tatami quand ils venaient. Donc ça faisait des grosses réunions. Et il y avait des gens qui venaient de toute l'Europe. Donc on a essayé on essaye de garder ce lien fort. Et de continuer à mettre en avant ce travail particulier qui nous a enseigné donc Maître Kizuchi pour être le plus près possible de ce que lui avait reçu du fondateur en direct.
Alors j'ai vu qu'il y avait un stage de Noël qui est organisé par Gérard Blaise donc le 26, 27, 28, 29 et 30 décembre. Vous allez y participer ?
Oui, moi j'y serai l'après-midi. J'ai appelé Gérard, je lui ai dit je pourrais pas être là-bas le matin, mais c'est une bonne relation avec Gérard. C'est pas quelqu'un qui va vous imposer quoi que ce soit. Il ouvre des stages et ça permet aux gens vraiment de partout de pouvoir venir s'entraîner. Moi je sais que j'y serai l'après-midi. L'année dernière, par exemple, on a échangé avec Jean-François. Lui, il était le matin, moi j'étais l'après-midi. Pendant tant d'années, il a fait toute la journée. Germano, il va aussi. On essaye de le suivre sur ses stages. C'est assez important parce que tout à l'heure on parlait par exemple d'évaluation sur le travail. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est une relation de corps à corps. Quand vous allez dans les stages de Maître Blaise, vous allez travailler avec lui. Il vous regarde dans un premier temps, il regarde votre travail. Mais des fois aussi, il vient vous solliciter, il vient travailler avec vous et ça lui permet justement de, comme disait Jean-François, de sentir quand vous avez un septième dan qui vient vous saisir le poignet, vous avez... Faut mettre en place ce que vous avez appris, mais même en le mettant en place, vous vous rendez compte qu'il y a encore beaucoup à faire.
Il y a encore du travail, encore.
Il y a encore beaucoup à faire.
Et la proportion homme-femme, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes dans les arts martiaux que les femmes, oui.
Il y a beaucoup plus d'hommes dans les arts martiaux, enfin, dans notre groupe, que de femmes. Ouais. Alors, je ne sais pas à quoi ça tient vraiment. Enfin. Moi, je dis ça, mais dans mon groupe d'aïkido, j'ai plus de femmes que d'hommes, par exemple. Donc, je ne sais pas à quoi ça tient. Je ne sais pas qu'est-ce qui motive ou pas les personnes à venir s'entraîner. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les pratiquants du groupe, on est quand même sur une période, sur une tranche d'âge qui suit Gérard Blaise depuis 35, 40, 25 ans. Donc, cette tranche d'âge, elle commence à devenir assez élevée et il y a moins de personnes. Il y a comme un trou d'air. Hein, c'est un problème de génération, je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que d'autres arts martiaux aussi rencontrent le même phénomène. Mais attirer les femmes dans une discipline, dans un art martial, où on ne doit pas montrer de force physique, c'est quelque chose qui leur sied vraiment, si vous voulez, par rapport aux hommes où on est plus dans la démonstration physique, les femmes beaucoup moins. Et donc c'est quelque chose, moi je trouve que c'est une pratique qui va vraiment, puisque la pratique telle qu'on la travaille, telle qu'on l'explore, c'est beaucoup de placement, de relâchement, et donc moins de force physique. La force physique, elle nous sert à nous déplacer, évidemment, il y a un enjeu musculaire, mais on n'est pas dans cette démonstration de force dans notre pratique. Et donc c'est quelque chose qui peut vraiment coller aux femmes.
Qui pourrait les séduire un peu plus.
Voilà, oui. Moi, j'ai ce sentiment-là. Alors je vous dis, c'est un problème, je pense que c'est un problème de génération, il y a un creux, hein, de ce que je peux voir sur les 25 années que je pratique. Et je dis pas qu'elles ne viennent pas, elles sont pas attirées, mais il y a encore peut-être cette image d'art martial, de démonstration de force physique, etc., qui peut rebuter aussi. Hein. Alors dans la mise en place d'un cours, on va chercher des personnes pour les intéresser à la pratique qui nous tient à cœur. Voilà, il n'y a pas seulement juste la discipline faite sur un tatami, c'est l'environnement, c'est le temps, est-ce qu'on est disponible ou pas, etc. Donc, dans la vie de côte, il y a 25 ans, on n'avait pas les mêmes contraintes que maintenant.
Oui, c'est vrai.
De mon point de vue. Et il faut adapter les cours, il faut adapter la pédagogie, il faut adapter beaucoup de choses. Mais en toile de fond, on garde toujours l'aspect budo, l'aspect... précis des techniques, etc. On ne relâche pas ces efforts-là. Mais on apporte autre chose, peut-être.
Oui, David, tu voulais rajouter quelque chose.
Oui, au niveau du sexe féminin, on vit une époque assez bizarre, particulière. Je trouve qu'aujourd'hui, enfin, c'est mon point de vue, hein, avec le recul, je trouve qu'on fait peur aux gens dans la société dans laquelle on vit, et on voit avec tous les événements qui se passent dans notre monde. Hein. Et du coup, à travers les arts martiaux, en ce moment, on voit beaucoup apparaître des solutions assez faciles. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à ces femmes, d'ailleurs Germano, il en parlait tout à l'heure, mais on est en train de dire aux gens, venez pratiquer ceci ou cela, je ne veux pas citer d'art martial particulier, mais on est en train de faire croire aux gens que s'ils viennent pratiquer telle ou telle pratique, ils vont obtenir des solutions, vous n'aurez plus peur et vous pourrez vous défendre. Je tiens à dire, moi, à cette radio, que c'est une erreur. Quelle que soit la pratique, il faudra des années de travail pour pouvoir pratiquer correctement une discipline. Mais ça vous enlèvera jamais l'état de stress le jour où il se passera quelque chose. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et pour revenir sur l'aïkido... Nous, on sait dès le départ que ça ne va pas être une solution d'opportunité de pouvoir apporter des réponses sur telle ou telle situation de combat dans la vie de tous les jours. Par contre, les gens qui vont venir pratiquer l'aïkido, hommes ou femmes, ils savent très bien qu'à un moment donné, dans le processus, on voit les gens ils viennent s'inscrire première année, les gens, quand ils prennent conscience de la quantité de travail, de la somme d'engagement personnel qu'il faut faire, il y a une décision à prendre. Et c'est souvent là qu'on voit les dojos un petit peu hop, se vider. Quand il faut prendre ses responsabilités de dire je m'engage ou je m'engage pas. Quoi.
Et puis on voit beaucoup les jeunes maintenant s'intéressent au MMA, des sports un peu récents qui se sont mis en place. Et donc ça doit les attirer, c'est parce qu'il y a des combats, il y a des trucs comme ça. Donc, alors qu'on a bien compris que vous l'aïkido, il n'y a pas cette compétition. Et en plus, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024, donc on met en avant tous les sports qui sont olympiques. Alors qu'au détriment du aïkido, peut-être c'est un problème de communication aussi, peut-être, de faire connaître plus votre art martial, de le faire découvrir, d'avoir des communicants.
Disons qu'à la création de la IATJ, il y a 35, il y a à peu près 35 ans, 40, ouais, pas loin, une quarantaine d'années, on va dire, les enjeux n'étaient pas les mêmes, les moyens de communication n'étaient pas les mêmes, on restait dans un cercle un peu restreint. Hein. Voilà, on cherchait pas non plus à se démarquer du judo, par exemple. Hein, par exemple, donc on est sur les tatamis, on a des tenues de pratique qui sont identiques. Mais voilà, on voulait quelque part, comme si on cherchait à être un peu entre soi et pas chercher vraiment à développer. Voilà, on était plus dans une étude personnelle avec un groupe sur lequel on s'entend bien, etc. Puis on progressait, tout le groupe progressait en même temps, on arrivait tous en même temps, et on progresse, etc., etc. On progressait avec Gérard Blaise, et les années passent, et le groupe est toujours le même, mais on pensait que ça pouvait amener un mouvement d'aspiration, mais il ne peut pas se faire comme ça. C'est pas juste la bonne volonté de dire « les gens vont venir ». Donc on est vraiment... dans une période sur ces dernières années où les réseaux sociaux prennent beaucoup de place et c'est un moyen bien utilisé, c'est un moyen formidable. Ouais. D'ailleurs, mon ami David a très bien compris ça il y a quelques années et maintenant il est vraiment à l'aise et il sait profiter de ces périodes-là, il sait mettre en place les choses, il est dans l'air du temps et donc il arrive vraiment à placer des stages, des commentaires, etc. Donc il fait vivre par son travail, il fait vivre il développe l'aïkido.
Voilà, moi je conseille aux auditeurs d'aller voir le Facebook que David a mis en place, il communique beaucoup comme ça, et il a fait un petit clin d'œil à la radio, donc je le remercie pour ça.
Ouais, ils tapent aïkido sans lice, ils vont tomber sur notre page Facebook, et là ils verront tous nos événements, quoi.
Qu'est-ce qui se prépare? Il y a des stages qui vont arriver en 2024, j'ai vu.
Il y en a déjà plein qui ont démarré depuis le mois de septembre, et il y en a plein d'autres qui arrivent. Mmh. Donc, sur son lice, là, on a donc notre grand stage national qui arrivera au mois de mars, hein, c'est ça. Gérard Blaise vient dans le 60, il nous fait honneur de venir, sur l'invitation de son élève Jean-François.
Ça sera l'occasion de le rencontrer, alors, peut-être, ou de l'inviter à la radio.
Après, c'est...
souvent le temps qu'il a.
Voilà, il faut trouver les créneaux.
Oui.
Mais souvent...
on peut se déplacer, nous, avec un micro, il n'y a pas de problème.
Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce qu'on va rentrer dans une période. En plus, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Tout à l'heure, Jean-François disait que ça va être l'anniversaire de la mort de Maître Ikitsushi et quelque chose va se créer autour de ça. Pourquoi pas, peut-être.
Oui, on se retrouver. Voilà. Mm-hmm.
Donc il y a plein de stages nationaux, internationaux, parce que sur l'IS, c'est même au niveau international, les gens se déplacent. Donc là, on va avoir Gérard qui va venir, mais ensuite, on a aussi, même avant Gérard Blaise, on a Daniel Champémont qui arrive, donc aussi un très très haut niveau, avec une très très grande expérience, qui vient nous faire un stage là à Senlis, pareil, avec la relation que Jean-François a créée avec lui depuis tant d'années. Ils sont tous les deux donc élèves de Gérard Blaise, et par leur relation, on a nous, en tant qu'élèves, moi je suis toujours content d'aller m'entraîner au dojo de Senlis, parce qu'on a toujours des gens de qualité, d'enseignement de qualité, qui viennent nous transmettre un peu toutes ces valeurs. Quoi.
Voilà. Donc, on peut donner des liens pour le club de Senlis, pour les auditeurs qui veulent suivre votre actualité.
Ah oui, vous tapez sur Google Aikido Senlis, c'est référencé, il tombe directement sur la page. Okay. Voilà, vous aurez un numéro de téléphone qui sera celui de Jean-François, qui sera largement vous accueillir. Alors, des fois, vous avez peut-être aussi la chance de tomber sur notre trésorière Odile, son épouse, qui est dans l'ombre, mais qui fait beaucoup pour cette association. Et des fois, elle est à sa maison, et puis c'est elle qui décroche. Mais pareil, vous serez toujours bien accueillis.
Pour venir découvrir l'aïkido, c'est vraiment quelque chose qui doit venir. C'est pas faire quelque chose pour. C'est la mode. Putain, je vais faire ça parce que c'est la mode, ces choses comme ça. C'est une vraie démarche de dire à un moment, comme l'ont fait Germano et David, à un moment, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Qu'est-ce que je fais de mon esprit? Est-ce que j'ai envie de subir les flots, d'être toujours dans la crainte, des choses comme ça? Ou est-ce que je vais essayer de construire un mental assez solide pour pouvoir faire la part des choses et dire ça, c'est des choses qui m'intéressent, ça ne m'intéresse pas. Faire le tri et rentrer dans une démarche, plus personnel et de faire avancer sa propre vie par des connaissances qui sont d'abord un petit peu physiques et puis, comme je le disais tout à l'heure, une fois que le physique et le mental sont bien alignés, quelque chose d'autre sort. Je pense, avec mes années d'expérience et de recul, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire qu'on a toujours à travailler sur le plan physique, mais ce plan physique vient nourrir la personne, vient créer et donne la possibilité donc aux pratiquants qui font cette démarche, si on ne la fait pas, naturellement ça ne marche pas, mais qui font cette démarche de créer son propre aïkido. C'est-à-dire que la force du fondateur, c'est pas de dire vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on rentre tous dans le même moule, mais c'est parce que vous pratiquez, quelque chose chez vous va changer, et s'il change, comme l'a dit David tout à l'heure, eh bien les choses autour de vous vont changer. Vous pourrez éventuellement éviter quelquefois des catastrophes parce que vous n'y serez pas. Tout bêtement, ça c'est une direction de vie qui m'intéresse pas. Et donc d'avoir un libre arbitre sur les choses que vous percevez et non pas être seulement là en train de dire ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et de recevoir sans vraiment trier. Je pense que c'est la vraie force de la pratique des arts martiaux, c'est apprendre à se connaître soi-même, à devenir une personne, j'allais dire une belle personne, pour pouvoir avancer d'une manière sereine dans la vie. Et quand il y a des choses difficiles qui arrivent, eh bien, on sait, quelque part, les recevoir et les diriger pour que ça nous affecte le moins possible et qu'on puisse garder notre cap dans notre vie de tous les jours. Je pense que c'est ça, intéressant.
Merci Jean-François. Germano,
Ah ben, eh bien, je dirais que la pratique de l'aïkido, c'est voilà, c'est on rentre dans une alchimie en fait, hein, une alchimie entre soi-même, le professeur, les élèves, le cadre. Et à travers cette alchimie, on va, si je reprends un peu les termes de Jean-François, c'est découvrir un peu soi-même à son rythme et toujours, voilà, toujours avec l'œil du professeur qui va vous guider. Dans la mesure de ses propres moyens. Et c'est cette progression personnelle, mais au sein d'un groupe aussi, qui est vraiment, qui moi m'intéresse beaucoup, voir les gens évoluer, hein, comme mon professeur peut me voir évoluer. Et donc, voilà, avec ce plaisir de voir les gens prendre du plaisir. Au-delà des techniques, etc., de ce qu'on peut, conscient collectif des arts martiaux, de soi-disant efficacité, eh bien, on va vraiment, on va se former, on va se découvrir aussi, on va explorer beaucoup de choses sur soi-même, et au travers des autres pratiquants, eh bien, on va créer un cours où tout le monde ressort avec de l'envie de revenir. Et voilà, moi j'œuvre dans ce sens-là.
Merci Charmano. Donc David, merci.
Senlis, donc, les gens qui veulent pratiquer l'aïkido sur Senlis, ils viennent, ils se présentent, ils vont rencontrer Jean-François. Les gens qui veulent pratiquer à Pont-Sainte-Maxence vont voir Germano et ils pourront découvrir son aïkido, sa pratique. Et ensuite, moi, donc, j'ai eu la chance, donc je suis toujours entouré de gens passionnés. Donc, deux personnes pour moi ont été importantes. Donc, mon professeur Jean-François de Poisson, qui est là, et une personne qui vient de me tendre une perche il y a quelques années où j'ai pu être instructeur, c'est Jean-Maurice Parizeau. J'espère un jour pouvoir vous l'emmener à la radio pour qu'il puisse aussi vous parler. Ouais. Lui, il pratique plutôt judo, jujitsu, donc c'est une autre partie, mais c'est quelqu'un qui est passionné aussi. Donc, c'est quelqu'un qui m'a tendu une perche et qui me permet aujourd'hui à Venette de pouvoir mettre en place une section d'aïkido. Et voilà, donc les gens qui ont envie de nous rencontrer, ils savent maintenant qu'il y a des dojos du groupe Gérard Blaise dans l'Oise, Senlis, Pont-Sainte-Maxence et Avenette.
Merci. Merci messieurs d'être venus nous rendre visite dans les studios de RVM, découvrir cet état d'esprit, cette philosophie qu'est l'aïkido. Et on espère se retrouver en 2024.
Merci à toi Fred.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Voilà, je remercie Jean-François de Poisson, donc 6e Dan. Je remercie Germano, hein, donc Minuti. 4e Dan, donc on a bien compris, c'est à Pont-Sainte-Maxence qu'il initie.
Pont-Sainte-Maxence,
voilà,
ouais.
Pont-Sainte-Maxence, voilà. Et David Seziki, voilà, donc 4e Dan aussi. Donc lui, c'est à Senlis et à Venette aussi, voilà. Hein.
Bah, on est tous les deux Germano-Mont, ouais. Élèves à Senlis.
À Senlis, et vous pratiquez donc voilà. À Venette, voilà. Voilà. Merci messieurs.
Merci.
On vous dit bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Grain de sel, une émission de la rédaction. grain de sel.